Dans cet évangile, Jésus continue de s'adresser à ses disciples. Il ne s'adresse pas simplement aux foules en général, il s'adresse plus spécifiquement à ses disciples. Mais c'est quoi un disciple en fait? Un disciple en Israël, c'est un homme qui a choisi un maître, un enseignant, et il attend de lui d'être guidé vers Dieu. Il attend de lui d'être guidé vers Dieu, et ce, en apprenant à vivre comme lui. Donc, du maître, on n'attend pas seulement des cours qui vont s'adresser à notre intellect. D'un maître, on attend une pratique de vie. On attend à la fois quelqu'un qui va nourrir notre intelligence, qui va nourrir notre compréhension des Écritures et de l'Alliance de Dieu, mais aussi quelqu'un qui, par sa façon même de vivre, va nous apprendre à vivre au cœur de l'Alliance avec le Seigneur. Voilà ce que l'on attend d'un maître en Israël. Et à terme, donc, on doit obtenir une similitude entre le maître et les disciples. Une similitude entre le maître et les disciples. C'est ce qui nous est dit dans l'Évangile. Le disciple, quand il aura été bien formé, chacun sera semblable à son maître. Et donc, j'ai été guidé. Je suis ensuite, quand j'ai été bien formé, en mesure de guider, même si c'est peu de monde. On peut avoir quelqu'un qui a un grand charisme pour pouvoir guider plein de personnes. Si j'ai été bien formé, je pourrai à mon tour guider, ne serait-ce qu'une seule personne. Cette relation maître-disciple que le Christ institue est une relation cependant à très haut objectif. On l'entendait la semaine dernière quand Jésus disait « C'est ainsi que vous serez les fils du Très-Haut ». Il ne s'agit pas là simplement du coup d'imiter un homme sage. On peut dire c'est déjà bien, c'est bien d'imiter un homme sage. Il y a un objectif qui va quand même beaucoup plus haut, parce que c'est d'imiter le Christ qui est le Fils du Très-Haut, et il nous prend au sérieux pour que nous devenions avec sa grâce les fils du Très-Haut. Et vous rappelez, ça va jusqu'à l'amour des ennemis, c'est-à-dire les fils de Dieu vivant de la vie même de Dieu. Et la première chose peut-être à entendre aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Alors, c'est certes compliqué et difficile, mais c'est possible. Quand Jésus, dans la parabole, dit « Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil », il faut d'abord le comprendre, non pas seulement « Ah là là, c'est vrai, j'ai peut-être une forêt qui est cachée dans mon œil », et pas d'abord ça, c'est d'abord « Cette poutre, elle est enlevable. Cette poutre, elle est enlevable. N'aie pas peur et ne renonce pas. Ne renonce pas. C'est possible. » Compliqué, difficile, assurément, mais c'est possible. Mais il y a un enjeu. Donc cette bonne nouvelle, il faut d'abord la recevoir. C'est peut-être la première chose aujourd'hui que je voudrais que vous sortiez de l'église en retenant ceci. Le Seigneur vient nous dire qu'il est possible d'ôter cette poutre. Mais on se souvient qu'il y a un enjeu, c'est que le disciple soit bien formé. Et là, une petite chose qu'on ne perçoit pas dans le texte français, c'est dans le texte grec, l'adjectif « bien formé » est un mode qui est celui du parfait. Alors qu'est-ce que c'est en grec le parfait? Ça signifie qu'il y a un résultat qui demeure. Vous savez, parfois on a atteint un résultat, mais on l'a perdu après. C'est celui qui essaie de faire sa démonstration en mathématiques, là il a recopié son livre. Au moment où il l'a fait, il a compris, il revient chez lui. Je ne sais plus comment faire. Donc ça, il a perdu justement l'intelligence de ce qu'il avait. Quand un adjectif est mis au parfait en grec, c'est-à-dire que le résultat que vous aviez acquis, vous le conservez, vous ne le perdez pas. Donc vous revenez chez vous, vous vous souvenez de toujours comment on fait. Donc le disciple bien formé, c'est ce disciple qui a à la fois saisi comment vivre comme le maître, mais qui l'a acquis. Vous voyez, c'est pas simplement j'ai compris qu'il devait y avoir quelque chose, non, j'ai acquis la capacité à le faire. Il y a un vrai enjeu que le disciple soit bien formé. Et Jésus insistait dessus, justement en prenant cette image de deux aveugles. Un maître aveugle, qu'est-ce qui va se passer avec son disciple aveugle? Ils vont finir tous les deux dans un trou. Donc il y a un vrai enjeu, pour ne pas devenir un piège pour les autres, d'être bien formé. Et Jésus va commencer à manifester des étapes pour que cette formation ait lieu. Et la première étape, c'est de comprendre que ça passe par une réforme de notre propre cœur. Ça passe par une réforme de notre propre cœur. Pour enlever la paille de l'œil de ton voisin, pour voir clair, elle commence par enlever la poutre de ton œil. Je voudrais insister sur ce point, c'est commence par enlever la poutre de ton œil, à distinguer d'une tentation de se dire « je ne suis pas parfait, donc je ne peux faire aucun commentaire, je ne peux faire aucune correction parce que je ne suis pas parfait. Parce que je ne suis pas parfait, j'ai perdu toute légitimité à la parole. » Ça, c'est un piège. Il y a beaucoup de gens qui voudront d'ailleurs nous dire « ah, tu me fais une remarque, mais tu n'es pas parfait, toi. De quel droit parles-tu ?» Et de fait, si je me mettais dans une posture où je dis « je parle du haut de ma perfection et je me penche vers toi, petit vermisseau imparfait, et je vais te montrer le bon chemin. » Alors d'accord, on pourrait être renvoyé dans nos buts. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit justement de pouvoir intervenir ce qu'on a vu, la paille. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de paille, on a dit que pour être capable de l'enlever, il fallait enlever d'abord la poutre dans notre œil. Et ça commence du coup par une humilité, d'une lucidité sur notre état, et qui est quand même ouvert à une parole. Je voudrais prendre un exemple d'un père, qui était alcoolique et qui voyait que son fils commençait à se droguer et qui avait commencé à lui faire des reproches en lui disant « mais ne te drogue pas, ne prends pas ça ». Et le fils était très en colère en disant « mais de quel droit me parle-t-il justement ? Lui qui est alcoolique, il vient de me faire des reproches à moi ?» Qu'il mette de l'ordre dans sa vie d'abord, et après peut-être que sa parole aura un impact. Puis le père a réfléchi, il est revenu vers son fils, et il lui a dit les choses différemment. Il lui a dit ceci, « Mon fils, moi je suis prisonnier de l'alcool, ne fais pas comme moi. Je te le dis, non pas de ma perfection, mais je te le dis depuis ma prison. Moi je voudrais que tu ne sois pas prisonnier comme moi, que tu puisses être libre. » Je ne te parle pas de ma perfection, mais je voudrais que tu sois libre. Et vous voyez, dans cette approche-là, il n'a pas renoncé à dire une parole de vérité, et une parole de vérité qui ne se plaçait pas de « je suis très au-dessus de toi et donc ma parole peut te rejoindre », mais « je connais une prison et je voudrais que tu l'évites, celle-là, que tu ne sois pas dans les mêmes affres que moi je connais ». Il y a une parole qui demeure possible, et qui n'est pas une parole qui se camoufle derrière une prétendue perfection, mais il y a une parole de vie qui peut quand même être partagée. Le Seigneur nous donne encore un indice, quand il nous disait donc que ce chemin, cette formation du disciple passe par la réforme de notre propre cœur, il donne ensuite un indice en disant « mais comment en fait peut-on connaître là où en est notre cœur ?» Il dit, c'est avec les fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Si vous avez un cœur bon, vous tirez de bons fruits de votre cœur bon. Si votre cœur est mauvais, vous tirez de mauvais fruits. Et puis il va donner un indicateur, il va donner un peu un révélateur. Vous savez, un peu comme on dirait à quelqu'un, si tu as de la fièvre, tu vas avoir mal à la tête. Si tu as de la fièvre, tu vas plus avoir la même énergie. On va dire, mais comment est-ce que je sais que j'ai de la fièvre? Quel va être mon indicateur? On va dire, le thermomètre, c'est un indicateur de la fièvre par laquelle vous pouvez être saisi. Jésus va donner un indicateur. Cet indicateur, ce sera la parole. Il dit, la parole, c'est ce qui déborde du cœur. Par la parole, vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir avoir un indice de là où en est votre cœur. Un indice de là où en est votre cœur. Non pas pour vous désespérer, mais pour savoir comment et sur quoi travailler. La parole est ce qui déborde du cœur. Donc il y a un examen de la qualité de notre parole qui va être un indicateur de notre cœur et qui va être un indicateur des axes de direction, de progression qui nous sont offerts. Alors ça, c'est parfois, du coup, un petit exercice que l'on peut faire. Et un petit exercice que l'on peut faire, on peut d'abord, le faire, cet exercice en deux temps. Et un premier temps, on réfléchit nous-mêmes, pour une petite feuille de papier, et on réfléchit nous-mêmes sur la qualité de notre parole. Quelles sont les qualités que d'ordinaire je vois à ma parole? Et puis, quelles sont les qualités que les défauts que je pense voir à ma parole? Ça peut être, je réfléchis sur ma parole, je dis, j'ai une parole précise, ce que je dis, c'est des informations souvent exactes. Et je peux dire, les difficultés de ma parole, elle est trop rare, ou au contraire, elle est trop abondante, je laisse plus personne parler. Ou au contraire, peut-être qu'il y a souvent des erreurs dans ce que je dis, des approximations. Je reviens sur les qualités, peut-être que justement j'ai de l'humour et je suis capable de détendre l'atmosphère. Notez ces choses-là, il vous donnera une indication. Et puis, vous trouvez autour de vous une personne qui vous aime, en qui vous avez confiance, qui vous respecte. Et vous allez avoir confiance en sa parole et vous lui demandez de vous dire la chose suivante. 3 qualités de votre parole et un axe de progression. Alors, vous demandez 3 qualités. Alors, pourquoi vous n'avez pas dit 3 et 3? Parce que notre cœur, malheureusement, il a souvent du mal à recevoir les corrections. Donc, il faut bien les équilibrer avec ce qui va bien. Sachez d'abord maîtriser, connaître ce qui va bien. Mais entendez aussi l'axe de progression et vous verrez, est-ce que cet axe de progression, c'est quelque chose que j'avais vu? Ou peut-être pas du tout. Mais comprenez que cet axe de progression, il n'est pas là pour dire qu'est-ce que tu es nul. Mais il est là pour dire, tu veux être en chemin sur le royaume? Eh bien, Dieu te prend au sérieux et te donne sa grâce. Que l'Esprit Saint m'inspire pour te donner un axe de progression qui te permette justement de réformer ton cœur afin que tu deviennes ce disciple bien formé que Jésus veut faire, un fils du Très-Haut, capable de guider ses frères, capable de guider ses proches. Un petit exercice que nous pouvons faire et qui peut nous donner un éclairage sur notre cœur, sur l'état de notre cœur. Seigneur Jésus, en ce dimanche, nous accueillons cette bonne nouvelle que nous pouvons être des disciples bien formés, fils du Très-Haut, capable de guider les frères que tu nous donnes. Que l'examen de notre parole, que l'examen de notre cœur aux symptômes de notre parole nous éclaire justement sur cet état de notre cœur. Assiste-nous pour enlever les poutres des yeux de notre cœur, afin que nous soyons ses disciples, fils du Très-Haut que tu veux pour le monde, semblable à toi, porteur de ta lumière, toi qui es lumière née de la lumière, tu veux que nous aussi, nous naissions de cette lumière. En ce dimanche, assiste-nous, ouvre-nous à cette purification, rends-nous saints. Amen.